Dobrý den, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque samedi, vous le savez, deux rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Dans la rubrique littéraire, nous nous intéresserons au Sang de Bohème du Sud, plus précisément le Sang de Bohème. C'est en effet le titre du roman élu récemment meilleur livre tchèque de l'année 2013. Mais on commence tout d'abord avec la rubrique culturelle et comment parler d'autre chose que de cinéma alors que s'est ouverte vendredi la 48e édition du Festival international du film de Karlovy Vary, l'équivalent un peu du Festival de Cannes en République tchèque. À cette occasion, nous vous proposons la rediffusion d'un entretien exclusif avec Eva Zauralova. Eva Zauralova est l'ancienne directrice artistique du festival, devenue simple conseillère, bref, mémoire vivante du festival qu'elle a suivi avant 1989 en tant que journaliste, puis à partir des années 1990 dans l'équipe organisatrice. À un peu plus de 80 ans, Eva Zauralova reste une boule d'énergie qui voue au cinéma un amour sans borne. Avant d'évoquer au micro d'Anna Kubishta la façon dont elle a découvert le cinéma, Eva Zauralova est revenue sur sa jeunesse et nous a expliqué d'où lui venait son français impeccable. Il s'agit là donc d'une rediffusion de l'entretien daté du 23 juin 2012.
Culture sans frontières.
Français, je suis arrivée par une voie très curieuse parce que quand j'étais toute petite, on habitait à Bobenec, à Davidson. Et là, il y avait le lycée français et aussi l'école élémentaire et aussi l'école maternelle. Et moi, j'ai commencé à fréquenter l'école maternelle française. Pendant la guerre, on a changé d'habitation. Et donc, alors, je ne suis plus revenue à Davidson. Mais il y avait, dans proximité de notre maison, il y avait une dame qui était suisse, de la partie suisse-française. Donc, alors, j'ai cherché d'approfondir un peu mes connaissances du français. Bon, et après, j'ai...
Pendant vos études, vous avez continué ?
C'était un peu bizarre tout, parce que, vous savez, je suis née avant la guerre. Bon, alors tout ça dont je parle, ça s'est arrivé avant la guerre. Après la guerre, je suis allée au lycée académique ici en Stepanska, où je n'avais pas le français. Il n'y avait que le russe, bien sûr, à l'époque. C'était obligatoire. J'ai fait d'ailleurs un peu d'anglais, mais tout à fait facultatif. Et après, alors, je ne savais pas où m'orienter. Je voulais étudier l'art, mais ce n'était pas possible au moment. Alors, j'ai essayé d'aller à la faculté des langues, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la faculté des lettres, c'était la faculté philologique. Probablement, c'était seulement pour une certaine période. Bon, et j'ai étudié le français et le tchèque, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir deux langues occidentales. Il fallait prendre soit le français et le russe, et soit le français
slave,
et le tchèque. Après la faculté, alors, j'ai travaillé un peu, c'est-à-dire pas un peu, j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années dans une institution qui s'appelait le Comité des femmes tchécoslovaques.
Et qui consistait en quoi exactement ?
Qui consistait dans les contacts avec les femmes progressistes des pays occidentaux. Mais à l'époque, on ne pouvait pas avoir le visa français. C'était l'époque du général de Gaulle et c'était très difficile d'aller en France. J'ai jamais été en France jusqu'à l'âge de 36 ans.
Ça, c'est cette époque-là, c'est une époque, c'est la période des années 50, je suppose. Cette époque, on ne pouvait pas du tout sortir du pays.
Ah oui, on ne sortait du pays, sauf que dans cette institution des femmes démocratiques, progressistes, on luttait pour la démocratie, pour la paix et pour l'amitié entre les femmes du monde entier. Mais on n'avait pas beaucoup de contacts, c'est-à-dire, d'ailleurs, on n'avait aucun contact avec les femmes françaises, tandis qu'avec les femmes italiennes, oui. En Italie, à l'époque, il y avait une très forte organisation des femmes communistes et socialistes. Alors, comme j'ai appris aussi l'italien, j'avais plus d'expérience avec l'italien parce que je sortais avec, en qualité d'interprète avec les délégations des femmes tchèques.
Est-ce que vous vous souvenez du tout premier film que vous avez vu ? Puisque quand même, voilà, il faut parler du film, du cinéma qui est très important dans votre vie.
Certainement, j'ai vu à l'époque les films de Disney, mais je me souviens d'avoir vu un film qui m'a touchée beaucoup. Et après les années, j'ai compris qu'il s'agissait de Tabou de Wilhelm Friedrich Murnau. Bon, alors j'ai trouvé à distance des années que peut-être j'avais déjà un peu du talent pour reconnaître un film intéressant. Donc, alors c'était, mais j'ai fréquenté beaucoup le cinéma à l'époque de la guerre parce que on n'avait pas, nous n'avons pas eu ni la radio, mais la télévision n'existait pas. Alors le cinéma, les salles de cinéma étaient pleines. Vraiment, chez nous, dans mon quartier, il y avait 2 cinémas, tandis que maintenant il n'y a aucun, naturellement.
Justement, comment est-ce que vous êtes arrivé progressivement à vous intéresser au cinéma, non pas simplement comme une simple spectatrice, mais également comme voilà, une spécialiste?
Non, je m'intéressais en tant que spectatrice, c'était pas un intérêt profond. Mais pourtant, j'avais peut-être déjà un certain goût pour un certain type de cinéma. Parce que je me souviens que j'ai apprécié beaucoup, quand je devais avoir 10 ans ou 11 ans, j'appréciais beaucoup un film qui s'appelait en tchèque le mariage pour la raison, mais c'était un film de mariage du chiffon de Claude Autant-Lara. Et je savais l'apprécier. Et je me souviens aussi qu'à l'âge de 14 ans, j'ai vu un film qui m'a profondément ému. Et après les années, j'ai découvert que c'était un des premiers films d'Ingmar Bergman. Alors je dois dire, de la vue de ma position d'aujourd'hui, que déjà il y avait quelque chose dans moi que je n'appréciais pas autant le cinéma commercial. J'appréciais beaucoup plus le cinéma d'auteur.
Et du coup, plus tard, vous avez travaillé en tant que journaliste, rédactrice dans un film Adoba.
Oui, quand j'ai quitté l'organisation des femmes, j'ai commencé à écrire, j'ai fréquenté un jeune homme que j'ai épousé d'ailleurs, avec lequel j'ai vécu pendant 17 ans, dont j'ai une fille. Et cet homme, il étudiait à la faculté du cinéma. Donc alors il m'a découvert déjà un peu plus consciemment le cinéma, parce qu'on pouvait fréquenter les projections de la faculté organisée pour les étudiants. Et comme ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment du cinéma et j'ai commencé aussi à écrire du cinéma. Après une certaine période et après le changement politique, on m'a demandé de devenir membre de cette organisation qui préparait le festival de Carlo Vivari. Parce que je connaissais déjà Carlo Vivari, mais en tant que journaliste, bien sûr.
Oui, donc en fait, vous connaissez l'histoire de Carlo Vivari depuis, en gros, j'allais dire, les années 60.
Non, je suis venue pour la première fois à Carlo Vivari en 70, tandis qu'à Cannes, j'étais en 69. Alors j'ai découvert, avant Carlo Vivari, j'ai découvert Cannes. Mais après, alors, je suis revenue à Cannes beaucoup plus d'années après. Mais bien sûr, alors déjà, j'avais l'idée qu'est-ce qu'un festival peut être, tandis qu'à Karlovy Vary, c'était vraiment moche, c'était pas intéressant, parce qu'à l'époque, les gens ne venaient pas beaucoup au cinéma. C'était la période de la soi-disant normalisation. Alors, les films de qualité, c'était vraiment assez rare de les voir. Et comme ça aussi, après les changements politiques, certains parties du pays ou certains de la société intellectuelle a commencé à dire que le festival devrait se transférer à Prague.
Et vous avez voulu rester là-bas?
Ah oui, alors j'ai lutté avec M. Bartoszka, que j'ai connu dans l'espace de ce conseil d'administration où on était ensemble, qui a préparé le festival en 1994. C'était notre premier festival, 1994. Nous avons, alors malgré tous les discours de l'inutilité du festival à Karlovy Vary, nous avons préparé une édition qui était assez bien acceptée, mais l'année suivante était déjà marquée de notre lutte contre les intentions de cette nouvelle équipe qui voulait faire le festival à Prague.
Pourquoi vous vouliez que le festival reste à Karlovy Vary?
Mais parce que Karlovy Vary, c'est un milieu beaucoup plus sympathique que Prague. Prague, une capitale pour un festival, c'est pas bien. À Prague ou dans une autre capitale, à Moscou par exemple, ou pourquoi on ne fait pas le festival à Paris et on le fait à Cannes? Et toute l'équipe, bien sûr, se transfère à Cannes seulement 15 jours avant le festival. Comme nous passons à Karlovy Vary seulement de 8 jours avant le festival. Karlovy Vary, c'est une ville très sympathique qui a une part vraiment très typique de la ville thermale. Bien sûr, il faut faire le festival tout à fait au centre thermal, l'hôtel. Qui a été d'abord, quand j'ai fréquenté le festival avant, alors Thermal, c'était quelque chose d'inouï, parce qu'avant, les journalistes vivaient dans un hôtel où il y avait, par exemple, 5 personnes dans une chambre et on ne connaissait l'un, ne connaissait pas l'autre.
C'était du camping.
Oui, de cette façon. Être à Thermal, seulement en deux, avoir une chambre pour 2 personnes, c'était magnifique. Mais bien sûr, Thermal, c'est quelque chose de très un peu spécial du point de vue architectural. Mais aujourd'hui, Thermal a regagné le respect parce que on a découvert vraiment pendant les années que c'est un produit typique des années 70 du point de vue d'architecture, et il y a des étrangers qui l'admirent beaucoup. Ils admirent aussi les meubles, les anciens meubles, parce qu'aujourd'hui les meubles anciens n'existent plus, ils sont dans un magasin probablement.
C'est devenu rétro en fait.
Mais ce côté rétro de Thermal aujourd'hui est beaucoup plus apprécié que quand nous avons commencé à organiser le festival, au début des années 90.
Voilà, et comme chaque samedi, la seconde moitié de l'émission est consacrée à la rubrique littéraire. Une rubrique littéraire aujourd'hui consacrée au meilleur livre tchèque de l'année 2013. Un livre dont l'auteur se considère malgré ce grand succès comme un auteur régional. Plus de détails tout de suite avec Václav Richter. Thank you.
rencontre littéraire. Sang de poisson est mon roman le plus épais et les personnages et les épisodes de ce roman sont les plus accomplis. Je le considère comme mon meilleur livre, dit l'écrivain Jiří Hajíček, dont la vie est aussi celle de beaucoup de lecteurs et de nombreux critiques. Le jury du prestigieux prix littéraire Magnesia Litera le partage sans doute aussi, puisqu'il a décerné à cet ouvrage le titre du meilleur livre de l'année 2013. Une fois de plus, l'auteur amène le lecteur en Bohême du Sud, région où il est né et où il a grandi, région qui l'a formé, qui lui a inspiré ses meilleures œuvres et où il vit jusqu'à aujourd'hui. La Bohême du Sud est une région aux innombrables étangs qui donne un caractère particulier au paysage. La pisciculture est une activité typique pour cette région et la carpe en est le symbole. Tout cela se reflète dans le titre que Jiří Hajíček a donné à son roman, profondément ancré dans sa région natale.
Je m'amuse à être un auteur régional parce que j'ai l'impression que la connaissance d'un milieu local permet à l'auteur de construire le récit d'une portée générale. Pourquoi chercher à éviter les motifs locaux et s'efforcer de ne pas être régional? Au contraire, tout cela m'amuse et je pense que cela profite à mon travail littéraire.
La couleur locale est donc un des très importants de ce roman qui met en scène plusieurs personnages confrontés aux changements profonds que subit leur pays et pris dans l'engrenage de l'histoire. Jiří Hajíček explique que le caractère spécial des gens de la région se reflète aussi dans le titre de son roman.
On dit que les habitants de Bohême du Sud ont du sang de poisson. Pour moi, c'est une espèce de métaphore de la Bohême du Sud et de ses habitants, d'une certaine lenteur, d'une certaine mélancolie, d'une certaine retenue. J'ai intitulé ce livre comme ça, bien que ce ne soit pas un livre sur les poissons ou sur la pêche. Je pense que celui qui lira ce livre jusqu'à la fin absorbera à sa lecture un peu de la nature des Tchèques et de la Bohême du Sud et comprendra aussi son titre.
C'est une jeune fille, Hanna, qui est la narratrice du roman « Sang de poisson ». L'auteur amène le lecteur dans la Bohême du Sud des années 1980, période de grands changements, d'espoir et de déception. Hanna habite un de ces villages destinés à disparaître pour céder la place à la construction de la centrale nucléaire de Temelín. Elle refuse de se laisser faire et se joint à la poignée de villageois qui décident de lutter contre le monstre nucléaire pour sauver leur maison et leur village. Hanna espère que le nouveau régime démocratique qui s'installe au pouvoir avec la chute du communisme en 1989 sera plus sensible aux revendications des villageois qui risquent d'être chassés de leur maison et de leur terre, mais elle perdra progressivement ses illusions.
Je choisis mes thèmes selon leur localité. Chaque thème de mes textes me touche personnellement dans une certaine mesure. Je ne suis pas le genre d'auteur qui invente un thème à sa table de travail et qui, en écrivant, le développe avec son imagination. Cela se développe toujours à partir de ce que j'ai vécu ou d'une expérience, de l'endroit où j'ai vécu et où je vis. Dans ce cas concret aussi, j'ai choisi un thème qui m'accompagne depuis mon enfance. Le thème de la construction de la centrale de Temelín est tellement fort que peu de ceux qui vivent dans les environs des villes de Tín et de České Budějovice n'ont pas été touchés.
L'auteur n'avait pas l'intention d'écrire un pamphlet antinucléaire. Il voulait faire revivre les gens de la région, évoquer leur vie de tous les jours, leurs soucis, leurs passions, leurs espoirs, leur monde qui disparaît avec une rapidité vertigineuse. Le héros du roman, Hanna, son ami Petr, le chroniqueur et militant contre la centrale Tuchel, n'ont pas une opinion arrêtée sur le nucléaire. Peu leur importe si l'énergie est fabriquée par la réaction nucléaire ou dans des centrales thermiques ou hydrauliques. Ils ne veulent que protéger leur maison et leur village. Ils refusent de sacrifier leur passé. Ils résistent jusqu'à la fin dans leur village perdu au milieu d'un paysage déjà déserté de la majorité de ses habitants et dominé par les gigantesques tours de refroidissement de la centrale. Ils refusent d'admettre qu'ils n'ont aucune chance de vaincre dans ce combat inégal. Leurs illusions s'effondrent et cela se répercute jusque dans leurs vies intimes, sur leurs relations amoureuses, qui ne reposaient probablement aussi que sur les illusions. Hanna, jeune fille qui a voulu sauver sa maison, se retrouve seule. Déçue et meurtrie, elle part à l'étranger pour se bâtir un autre avenir. Jiří Hajíček a pu évoquer ce monde voué à disparaître avec une force de détail parce qu'il a fait partie de ce monde pendant la première étape de sa vie. Néanmoins, il a puisé aussi dans d'autres sources.
Dans ce cas, c'est une combinaison de souvenirs personnels, d'expériences, du vécu et des recherches dans les archives. Dans mon roman précédent, Le baroque paysan, j'ai beaucoup puisé dans des chroniques parce que je n'avais pas vécu la période que j'évoque dans ce livre. Mais le sujet du roman Sang de poisson m'était familier et j'ai écrit ce livre aisément. La période allant de la moitié des années 80 à la moitié des années 90, c'est une période que j'ai vécue et dans le roman, je laisse raconter cette histoire à une jeune fille qui est pratiquement ma contemporaine. Donc les souvenirs, l'atmosphère, les histoires des gens de la campagne sont souvent basées sur ce que j'ai vécu, sur mes expériences et sur ce qu'on m'a raconté.
En écrivant le livre, Jiří Hajíček a cependant aussi combiné son vécu avec d'autres sources. Il a cherché des documents dans les archives et a également puisé dans deux livres du publiciste Antonín Pelíšek consacrés à cette période dramatique pour beaucoup d'habitants de Bohême du Sud. L'autre source de documents et d'inspiration a été pour lui le livre de souvenirs de Jan Bartuška, originaire du village de Březí, une des communes sacrifiées à la construction de la centrale de Temelín. Jiří Hajíček apprécie beaucoup le style de chronique que Jan Bartuška a donné à son livre, qui réunit de nombreuses informations et évocations de la vie des villageois.
Je dirais que cet exemple concret de la centrale de Temelín et la liquidation de villages au tournant des années 80 et 90 peut être perçu aussi comme une métaphore d'une valeur générale. Il évoque ce désenchantement que beaucoup parmi nous ont vécu en 1989 et après la révolution qui a entraîné la chute du communisme, lorsque nos espérances se sont avérées être naïves. Les gens se sont rendus compte de la réalité et ont été souvent déçus. L'histoire concrète de la résistance contre la construction de la centrale de Temelín est donc sur beaucoup de points une histoire d'une valeur générale.
Toho odporu proti stavbě Temelína byl mnohem vlastně obecný příběh.
Voilà, et c'est la fin pour aujourd'hui de l'émission en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Thank you.